Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Les secrets des Templiers continuent de fasciner les amateurs de mystère et ces jours-ci, deux nouveaux romans à suspense leur sont consacrés, le 7e Templier de Giacometti et Ravenne et le secret de l'enclos du Temple de Jean d'Aillon. Franck Ferrand a invité leurs auteurs ainsi qu'un historien de la question. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Ce drame est vieux de 7 siècles tout de même. C'est en effet en 1307 que le roi Philippe le Bel fait arrêter tous les Templiers de France et qu'il invite le pape Clément V à dissoudre leur ordre. C'était la fin d'une incroyable aventure de 2 siècles pour ces personnages étonnants, pour ces moines soldats qui venaient de Jérusalem.
Alors si vous avez des questions à poser à Franck et à ses invités, écrivez-nous sur le site internet d'Europe 1 ou via ce site que nous n'avons plus le droit de nommer mais qui commence par un F.
N'est-ce pas ?
Mais nous avons conservé d'ailleurs beaucoup d'amis sur le site.
Mais oui, et nous les saluons. Je vois que vous aussi, Julia, vous parlez par énigme aujourd'hui.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Les voilà qui s'avancent. On est sur le parvis de Notre-Dame de Paris ce 13 mars 1314. Et en présence de 3 cardinaux, d'une foule d'archevêques et d'évêques, les dirigeants déchus de l'ordre du Temple sont amenés, enchaînés pour s'entendre condamnés à la prison perpétuelle. C'est à ce moment-là que va se produire le scandale terrible. Leur grand maître, Jacques de Molay, se dresse et crie à la face de ses accusateurs « Nous ne sommes pas coupables des choses dont on nous accuse. Nous ne sommes coupables que d'avoir trahi l'ordre du Temple pour sauver nos têtes. » Et il ajoute « L'ordre est pur, l'ordre est saint ». C'est une gifle publique infligée au roi de France Philippe IV, dit le Bel. Aussitôt, le souverain réagit, évidemment. Il fait déclarer relaps Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay. Et le soir même, sur un îlot de la Seine que surplombe le palais de l'île de la Cité, les deux vieillards sont brûlés vifs. Ce soir-là, dans ces fumées grasses qui s'attardent sur le fleuve, c'est l'ordre du Temple qui s'évanouit. Cet ordre du Temple qui emporte à jamais ses secrets et ses mystères. On peut dire que c'est une extraordinaire aventure de 2 siècles qui s'achève. Tout était né dans le cadre, comment le qualifier? Dans le cadre héroïque, dans le cadre ensoleillé du royaume franc de Jérusalem. Un nouveau royaume installé alors en Palestine par des croisés victorieux. On est juste avant 1100 et une poignée de guerriers hardis a proposé à ce moment-là au roi Baudouin II de Jérusalem de constituer sur place une armée permanente sous la forme d'un ordre à la fois religieux et militaire. 9 chevaliers sont à l'origine de ce qui d'emblée va s'affirmer donc comme un nouvel ordre, et notamment Geoffroy de Saint-Omer et Hugues de Prince, vous savez, le Champenois. Leur mission principale, assurer aux pèlerins de Jérusalem un accès libre et un accès sûr aux routes d'Orient. Ces chevaliers se font appeler les pauvres chevaliers du Christ, mais comme ils se sont installés dans un quartier du palais royal qu'on appelle à l'époque le Temple de Salomon, pas tout à fait à juste titre du reste, mais c'est une autre histoire, comme ils sont là dans ce Temple de Salomon, leur surnom prend le pas sur l'appellation officielle. Ils seront bientôt les chevaliers du Temple, et un jour on les appellera carrément les Templiers. Or, précisons-le tout de suite, cet ordre va être reconnu par l'Église. Au bout de 30 ans environ, en 1128, Hugues de Prince a pris la peine de se rendre au Concile de Troyes pour faire solennellement reconnaître ses condisciples. La règle des moines soldats est inspirée par Bernard de Clairvaux, mais elle serait plutôt d'essence augustinienne et non pas directement cistercienne. Ça, c'est un débat qui me dépasse un peu, je vous l'avoue. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que l'ordre est très strict, qu'il est très soudé, on n'y entre pas facilement. Le postulant est même fortement découragé. On lui explique que ce qu'il peut deviner de l'ordre quand il le regarde comme ça de l'extérieur, ce n'est qu'une écorce flatteuse, à quoi répond au-dedans une discipline des plus dures. « Et si vous voulez dormir, on vous fera veiller, » dit le tenant du chapitre. « Et si vous voulez aucune fois veiller, l'on vous commandera d'aller vous reposer en votre lit. » Du reste, à Jérusalem, le chevalier du Temple dort presque habillé, la lampe allumée à son chevet. Il doit se tenir prêt à prendre les armes à tout instant. Son cheval est aussi toujours paré, le cheval prolongement immédiat du chevalier. J'emploie bien à dessein ce terme de chevalier parce que, sur place, les Templiers portent beau. Ils sont largement pourvus par la générosité des souverains chrétiens, dignes de l'admiration de tous dans leurs atours, vous savez, très éclatants, notamment le manteau blanc orné d'une grande croix rouge. Leur prestige est très grand et leur autorité, leur primauté même, va s'imposer peu à peu en Syrie et en Palestine. Pas besoin d'être grand clerc pour deviner où tout ça va nous mener, ça dégénère, évidemment. Les Templiers ne se reconnaissent de vrais maîtres que dans le pape. Or, le pape, il est très loin. Et bientôt, ils vont pouvoir se draper dans un orgueil qui les oppose à toute concurrence, à commencer par celle des frères hospitaliers. Indépendants et même ombrageux, ils ne vont pas tarder à devenir incontrôlables. En plus, ils sont riches. Ils sont tellement riches qu'ils finissent par prêter de l'argent au sultan de Damas. N'oubliez jamais la chose suivante, c'est qu'au moment où le roi Amori de Jérusalem meurt, on est en 1172, ce roi en est venu à regretter l'existence de l'ordre des Templiers qui est trop puissant, tout puissant. À cause des Templiers, en effet, le roi de Jérusalem n'est même plus maître de sa politique ni de sa diplomatie. Les Templiers veulent tout régenter et Amaury était prêt à demander au pape la dissolution de l'ordre. Or, on est là, je vous dis, en 1172, c'est-à-dire presque un siècle avant la naissance de Philippe le Bel. Tout ça pour vous dire que l'opposition aux Templiers n'est pas née dans l'esprit parano du roi Philippe le Bel. Attention, dès 1187, l'émir Saladin reprend Jérusalem. Jérusalem définitivement perdue pour les chrétiens en 1284. Jérusalem qui était la raison d'être de l'ordre du Temple et qu'ils n'ont pas su sauver, bien au contraire.
De Wall Breached d'Harry Gregson Williams, tiré de la bande originale de Kingdom of Heaven, un film de Ridley Scott.
Sur la prise de Jérusalem par Saladin. Alors, les Templiers viennent de perdre avec Jérusalem leur raison d'être initiale et il n'est pas exagéré de dire qu'ils portent une lourde responsabilité dans cette perte et plus généralement dans celle des établissements chrétiens de Palestine et de Syrie. Voilà des moines, en même temps soldats, qui ont failli à leur tâche. Alors dès lors, on peut se demander ce qu'ils vont faire de tous ces dons afflués d'Occident dans le but d'affermir la présence chrétienne en Terre Sainte. Eh bien, sans trop d'état d'âme, ils vont les rapatrier avec eux, en Europe. Et quand je dis en Europe, d'abord en France. Inutile, formidable, odieux, écrit Michelet avec ce style qui n'appartient qu'à lui, il revenait. Qu'allait-il faire en pleine paix de tant de force et de richesse? Unis aux hospitaliers, aucun roi du monde n'eût pu leur résister. Or, grâce précisément à cette fortune immense qu'ils ont accumulée au Levant, ces moines soldats, avec le temps, vont devenir tout naturellement ce qu'on appellerait aujourd'hui une puissance bancaire. En France, où cette puissance finira par instituer une sorte d'État dans l'État, un potentat gigantesque qui s'appuie sur un réseau de forteresses et de commanderies, ainsi que sur une armée permanente, il faut le souligner, à une époque où ça n'est pas si fréquent ni brillant, et au-delà de la France, d'une façon générale, dans toute l'Europe occidentale. Ces places fortes sont bien réparties, bien construites, bien défendues. Elles sont le gage de confiance que les nouveaux banquiers, si je puis dire, donnent à leurs clients. Et qui sont ces clients? Bien des particuliers, des princes, des souverains, et bien sûr au premier chef, l'Église de Rome elle-même. Ça, c'est une constante dans l'histoire. Il n'est jamais recommandé d'avoir de trop puissants débiteurs.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le récit de Franck nous relate aujourd'hui sur Europe 1 l'incroyable aventure des moines soldats venus de Jérusalem. Ils sont appelés aussi les Templiers.
Et oui, ces Templiers qui ont fini par tenir les cordons de la bourse des principaux potentats d'Europe. Pour vous donner un exemple, le trésor des rois de France pendant plus d'un siècle est en dépôt dans l'enclos du Temple à Paris. C'est l'endroit le plus sûr du royaume. Même chose à Londres pour le trésor d'Angleterre. Alors, n'allez pas croire que les Templiers se contentent pour autant de recevoir des dépôts. Ils font aussi des avances en retour et ils procèdent à toutes sortes d'opérations financières. Comme nos banques modernes, si je puis dire, ils disposent, vous l'avez compris, de tout un réseau de comptoirs très bien organisés, ce qui leur permet d'effectuer des paiements à distance et des transactions déjà dématérialisées. On va voir ainsi Saint-Louis, par exemple, ou Henri III d'Angleterre, ou même souvent le Saint-Siège, charger les Templiers de leurs encaissements, de leurs paiements, comme s'il s'agissait d'une annexe du trésor. Et encore, quand je dis annexe, ce serait presque plus que ça. Un comble, quand Louis VIII de France veut partir pour la croisade, ce sont les Templiers rentrés de Jérusalem avec tout l'argent que leur avaient donné les princes d'Europe qui lui avancent les fonds. D'ailleurs, ils peuvent faire encore plus fort. Quand Jean Santerre, vous savez, Jean Santerre, c'est le méchant régent de Robin des Bois, quand il veut faire passer en Angleterre les chevaliers Poitevin qu'il enlève à Philippe Auguste, eh bien, qui avance les fonds pour cette traîtrise ? Les Templiers, bien entendu, de sorte que, quand on en vient au règne de Philippe le Bel, qui est un temps de grande remise en ordre, vous savez, les Templiers ont acquis un statut tout à fait unique dans l'histoire. Pour parler clair, ils tiennent le trésor royal, ils ont le nerf de la guerre, l'oxygène de la monarchie. Dès 1305, le roi Philippe obtient tout de même que des trésoriers royaux soient adjoints aux gestionnaires du temple. Vous voyez, c'est un premier pas vers une reprise en main. Mais ce n'est que le premier pas. Au-delà de cet aspect financier qui est extrêmement important, ce qui froisse Philippe le Bel, c'est que de plus en plus, les Templiers se mêlent sous son règne d'opérations commerciales et que dans ces conditions, de nombreux sujets ont pour ambition de devenir leurs vassaux directs pour échapper à différentes suzerainetés, pour échapper aux diocèses, aux seigneurs locaux, voire au roi lui-même. Quand je parlais d'État dans l'État, vous voyez que je noircissais pas le tableau. Du reste, le roi Philippe n'est pas le seul, loin de là, à en avoir assez des Templiers. À la même époque, par exemple, le chancelier Rostand Béranguier déclare, je le cite, « C'est grand dommage qu'on n'en ait pas purgé le monde ». Et beaucoup plus près de nous, le duc de Lévis-Mirepoix insiste, je le cite, « L'Orient abandonné, la France devenait le principal champ d'action des Templiers ». On n'ignorait pas leur rôle dans la désagrégation du royaume de Jérusalem. Fallait-il attendre qu'ils agissent de même en France ? Assurément, leur présence posait devant Philippe le Bel un problème d'État. Et l'historien ajoute, au-delà de l'image figée par les siècles des Templiers vaincus, il faut voir l'image des Templiers triomphants. Chétif est le roi en face d'eux avec ses coffres vides, ses troupes éparses si un conflit éclate. Et ils le savent bien. Et il le sait bien aussi. À moins qu'il ne supplée à sa faiblesse matérielle par son esprit de décision. Et ça, évidemment, c'est ce que va faire le roi Philippe. Reste pour lui à trouver le défaut dans la cuirasse de ces moines soldats. Et ça, cette opportunité-là, elle ne peut être que le fruit d'un hasard. Alors, quitte à le forcer un peu, le hasard. En l'occurrence, il s'incarne dans un obscur bourgeois de Béziers, un nommé Sequin de Florian, qui, grâce au conseiller Guillaume de Nogaret, a réussi, il a beaucoup de chance ce monsieur, à obtenir une audience du roi. Évidemment, Nogaret est derrière toute cette histoire. Il se trouve que le Florian en question s'est trouvé un temps emprisonné dans la même geôle qu'un templier qui avait renié ses vœux. Et les deux hommes se sont mutuellement confessés. Et là, ce que Florian a entendu, et notamment à propos des rites d'intégration dans l'ordre, ce qu'il a entendu lui a fait dresser les cheveux sur la tête. Alors, il a réussi, je vous ai dit, à rencontrer le roi, il lui raconte tout. Philippe est abasourdi, mais en même temps, il ne peut s'empêcher de sourire. Et autour de lui, ses conseillers se frottent carrément les mains. Nul doute que s'il écoutait à ce moment-là Guillaume de Nogaret, Philippe IV ferait arrêter le grand maître sur le champ. Mais le roi est prudent, il veut avancer à sa manière, tranquille et méthodique. Et pendant 7 années, de 1300 à 1307, les agents de la couronne vont enquêter tranquillement dans l'ombre. Entre parenthèses, on est loin de l'image d'Épinal d'un pouvoir aux abois qui agirait dans une grande précipitation. La légende du coup de majesté brutal en prend quand même un petit coup. et je vous prie de croire qu'il faut une certaine force d'âme à Philippe le Bel pour ne pas céder aux suppliques de ses conseillers, qui craignent que plus on perdra de temps, plus les Templiers auront des moyens de réagir, évidemment, éventuellement de se retourner contre la couronne. Encore une fois, ils sont tellement puissants, faut toujours garder ça à l'esprit. Au bout de 7 ans, lorsque tout a été prévu, réglé, on peut dire que s'organise une des plus formidables opérations de police de tous les temps. Un coup de filet unique. Quand je dis unique, unique par son organisation, unique par le secret qui l'aura entouré et enfin et surtout par son ampleur exceptionnelle. Dites-vous que ce même 13 octobre à l'aube, sur tout le territoire du royaume, les Templiers, où qu'ils se trouvent, doivent être arrêtés en même temps. C'est très difficile à mettre sur pied, ça, surtout à la barbe de gens qui sont très bien renseignés, qui disposent du réseau d'informateurs le plus efficace de leur temps. 700 ans plus tard, on peut dire que ça paraît toujours incroyable. Les arrestations doivent intervenir par surprise, à l'issue de ce qui au départ doit apparaître avant tout comme autant de visites de courtoisie de la part des agents du roi. C'est-à-dire qu'on se présente dans les différentes commanderies, et puis une fois qu'on est en présence des chevaliers, eh bien on agit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les risques de bavure sont multiples. Le pouvoir royal n'est pas à l'abri d'une indiscrétion ici, ou d'une précipitation là, ou ailleurs d'un retard. Eh bien non, pas du tout. Dans l'ensemble, tout se passe comme l'avait prévu, tout se passe comme l'a ordonné le roi Philippe IV.
Au cœur de l'histoire, reviens dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Extrait du film Henri V de Kenneth Branagh, Franck.
Alors bien sûr, certains Templiers très rares ont eu le temps de se donner la mort par pendaison ou par défenestration au moment de cette grande opération de police. Une douzaine en tout a aussi réussi à s'échapper. Mais ce n'est rien, tout ça, comparé évidemment aux centaines de chevaliers arrêtés sans coup férir, en 1 ou 2 heures de temps, à l'échelle de tout un royaume, et à une époque où l'on ne dispose que de moyens de communication des plus rudimentaires, l'organisation militaire la plus aguerrie de son temps se trouve entièrement désarmée, désarmée sans appel, c'est vraiment une chose incroyable. Alors évidemment, le traitement infligé aux moines soldats à partir de ce matin-là est une horreur. Les tortures sont terribles et vous savez que sous certaines tortures médiévales, on doit pouvoir faire avouer à peu près n'importe qui, à peu près n'importe quoi.
Tout, ouais.
On peut dire que l'opprobre continue d'en retomber aujourd'hui encore sur la figure implacable de ce roi Philippe que Maurice Druon avait qualifié de roi de fer, vous savez, ce Philippe le Bel. Mais entre nous, si l'on réfléchit 5 minutes, est-ce que Philippe le Bel avait vraiment le choix? Vous imaginez les conséquences à ce stade du rapport de force, là où il en est arrivé dans sa lutte à mort contre l'ordre du Temple, vous imaginez les conséquences du moindre relâchement de sa part. Ces gens-là, encore une fois, sont extrêmement organisés, ils sont puissants, ils sont très bien répartis sur le territoire, etc. Le roi Philippe savait qu'ils avaient également beaucoup de contacts dans toutes sortes de populations, y compris les plus influentes. Et dans ces conditions, on peut dire qu'il n'hésite pas. Avec cette espèce de poigne de fer, et quitte à passer pour un bourreau aux yeux de la postérité, puisque c'est exactement ce qui s'est passé, Philippe assume ce qu'il croit être salutaire pour son royaume, c'est-à-dire débarrasser le pays d'une organisation extrêmement puissante et apte à déstabiliser n'importe quel souverain. Philippe ne peut évidemment pas agir seul pour autant. Il lui faut absolument dans cette affaire le soutien du pape. Et ça, ce sera très compliqué parce qu'évidemment, dans un premier temps, le pape, c'est Clément V à l'époque, il se fait un peu tirer l'oreille. Dans un premier temps, notamment, il a tendance à faire des enquêtes extrêmement pointues et voyant la très grande violence des inquisiteurs français, il fait suspendre les pouvoirs de l'Inquisition de France. Et là, la réplique royale est immédiate. Le 13 mars 1308, Philippe le Bel réunit les États généraux à Tours. Et là, devant l'Assemblée des États généraux, donc devant le peuple, si vous voulez, le roi justifie sa position. Il fait appel à la sagesse des représentants du peuple pour purifier, c'est le terme qu'il emploie, ça rappelle bien d'autres choses beaucoup plus récentes, pour purifier le pays des méfaits perpétrés par ce qu'il appelle un ordre criminel. Ça, c'est une manœuvre très habile parce qu'à partir de ce moment-là et dans la mesure où les États généraux suivent entièrement Philippe IV, ce n'est plus le roi de France qui s'attaque aux Templiers, c'est le peuple français lui-même, bien entendu. Alors, le pape Clément V entend néanmoins se forger lui-même son opinion sur les pratiques prétendument hérétiques en vigueur chez les Templiers. Il reçoit en audience secrète un haut responsable de l'ordre et puis il interroge en personne et sous sa haute garantie 72 Templiers de tout grade. Et là, il faut bien dire que ce qu'il apprend le sidère. Et pas de gaieté de cœur, contrairement à ce qu'on a pu dire, le pape va finalement décider d'instruire le procès de l'ordre tout entier. Dans chaque diocèse, l'évêque sera chargé de juger les Templiers comme particuliers, tandis qu'à Chinon, une commission supérieure jugera des responsabilités générales. Le procès verbal de ces interrogatoires de Chinon, on les possède et c'est Michelet qui les a publiés. Ils comprennent la déposition du grand maître et celle de 231 chevaliers. Or, notre historien national, toujours suspect de partialité, c'est pas moi qui vais me mettre aujourd'hui à vous défendre Michelet après tout ce que je dis à longueur de semaine, mais enfin là quand même, Michelet a changé de position sur le sujet parce qu'il avait, à l'époque dont je parle, il avait déjà publié son tome 3 de l'histoire de France dans lequel il prenait fait et cause pour les pauvres Templiers. Et là, dans sa préface à la publication des interrogatoires, il va se voir contraint de revenir sur son opinion. Je cite Michelet. Il suffit de remarquer dans les interrogatoires que nous publions que les dénégations sont presque toutes identiques, comme si elles étaient dictées d'après un formulaire convenu. Et qu'au contraire, les aveux sont très différents, variés de circonstances spéciales, souvent naïves, qui leur donnent un caractère particulier de véracité. Le contraire, nous dit Michelet, le contraire devrait avoir lieu si les aveux avaient été dictés ou arrachés par les tortures. Cet interrogatoire fut conduit, il parle donc bien de celui de Chinon, fut conduit lentement et avec beaucoup de ménagement et de douceur par de hauts dignitaires ecclésiastiques. Or, les conclusions des dignitaires en question sont accablantes pour le temple. Les dérèglements et l'immoralité de l'ordre, en tout cas, quand je parle de dérèglement et d'immoralité, aux yeux des bons chrétiens ou que sont ou prétendent être les juges dépêchés par le pape, ces dérèglements sont devenus plus qu'un point faible pour l'ordre. Ils font littéralement scandale. C'est à la fois une chance, ça, pour la monarchie française, et c'est surtout une injonction pour l'Église de réagir. Alors qu'est-ce qu'on reproche concrètement aux Templiers? Quels sont les fameux méfaits qui leur vaudront de subir les foudres de la justice ecclésiastique d'une part et surtout royale en France? Eh bien, nous allons revenir évidemment, juste après le flash de 14h, nous allons revenir avec mes invités sur le détail des accusations, sur les pratiques dont on accuse les Templiers de se rendre coupables. Elles sont de divers ordres, mais elles sont toujours de l'ordre un peu du sacrilège. Je vous en donne quelques-unes. Dès qu'on avait l'opportunité de procéder à la réception, donc la réception d'un nouveau chevalier, chacun d'eux, pendant cette réception, reniait le Christ. Parfois le Christ en croix, parfois Jésus, et parfois Dieu, et parfois la Vierge, et parfois tous les saints de Dieu. Cela sur les injonctions et les exhortations de ceux qui le recevaient, nous dit notamment l'acte d'accusation contre l'ordre de la chevalerie. Donc c'était le 13 août 1308 cet acte d'accusation. On reprochait aux Templiers de faire cracher ceux qu'ils recevaient sur une croix, sur une représentation ou une sculpture de la croix ou une image du Christ, bien que quelquefois ceux qui étaient reçus aient craché à côté. Évidemment, il est très difficile de savoir ce qu'il en est réellement. Et on va essayer de tirer ça au clair tout à l'heure. Mais ce qui est certain, c'est que ça faisait des prétextes extraordinaires pour condamner définitivement l'ordre et pour le dissoudre. On peut dire que le conflit entre la monarchie française et la papauté va atteindre des sommets. Le pape ne s'est pas laissé faire et il a fallu beaucoup de diplomatie et aussi beaucoup, disons-le, un caractère assez retors à Philippe pour faire admettre à Clément qu'il était nécessaire de condamner les Templiers, quoi qu'il en soit. Vous avez bien compris que ces reproches qu'on leur adresse sont un prétexte pour abattre cette organisation devenue incontrôlable financièrement et militairement. Dans cette affaire, le pouvoir royal ne pourra être qu'accusé de toute façon d'intérêt mesquin. Et évidemment, le roi de France avait tout intérêt à faire tomber les Templiers. Ses agents vont être taxés d'une brutalité aveugle. Et c'est vrai que les tortures ont été épouvantables et que la brutalité du roi de France dans cette affaire est incroyable. Le roi lui-même porte devant les siècles la responsabilité de cette mesquinerie supposée et de cette évidente brutalité. Mais comme souvent, et parce que l'opération a réussi, on a fini par oublier les dangers qu'elle avait permis d'écarter. Or, ces dangers, me semble-t-il, c'est une erreur que de les oublier. Pour Philippe le Bel, il aurait été bien plus confortable, vous savez, et je dirais même incomparablement confortable de ne jamais s'attaquer aux Templiers. Sa réputation dans l'histoire serait meilleure, mais on reconnaît les grands hommes d'État à cela, précisément, que le confort, leur confort quotidien, et la réputation, celle qu'ils traînent ensuite devant les siècles, leur importent moins que les intérêts supérieurs dont ils ont la charge.
Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Et nous nous intéressons aujourd'hui aux Templiers sur Europe 1. Pour en parler, vos invités Franck sont les écrivains Dominique Labarrière et Jacques Ravenne.
Dominique Labarrière, auteur de La diabolique affaire des Templiers aux éditions Alphée, qui revient sur l'ensemble de cette affaire. Et avec vous, Dominique Labarrière, dans un instant, j'aimerais qu'on revienne justement sur les circonstances très précises de cette enquête et de cette arrestation. Et puis Jacques Ravenne, que connaissent bien nos auditeurs. Jacques Ravenne, qui est l'auteur, avec Éric Giacometti, d'un thriller qui sort demain, je crois.
Demain, oui.
Donc on est vraiment sur le fil même de l'actualité littéraire. Ça s'appelle Le septième Templier. Et pour avoir passé une nuit blanche, je peux confirmer à nos auditeurs que c'est très passionnant. Ça fait partie, vous savez, de ce genre de livre. Comment les Britanniques appellent ça
Un patch-turner.
C'est-à-dire que quand vous avez commencé,
vous
ne vous arrêtez plus. Puis, en plus, moi, j'ai apprécié les allusions à ma région natale. On voit le pape se promener de Poitiers à Ligugé. Enfin, tout ça est très sympathique. On voyage constamment entre le présent et le passé, bien entendu. Alors, Dominique Labarrière, vous avez écrit donc cette diabolique affaire des Templiers, et vous me disiez, juste avant que nous reprennent nos débats, qu'en fait, il y a eu une division du Temple à partir du moment où les Templiers sont devenus, en tout cas en France et disons en Europe, sont devenus plus des banquiers que des soldats.
Voilà, c'est-à-dire à partir de la perte définitive de Jérusalem, l'organigramme majeur du Temple se retire à Chypre et ne vient pas en France. Mmh. Et il y a une amplification de l'activité bancaire qui se fait à ce moment-là. Mais il n'y a plus d'activité ni militaire ni véritablement religieuse par rapport au lieu saint. Donc il y a un renversement sociologique qui se fait, c'est-à-dire que les affaires d'argent ne sont pas goûtées par l'aristocratie. C'est une tradition très ancienne et qui perdure. Et qu'on voit émerger l'autorité templière de gens venant de la bourgeoisie et traitant les affaires d'argent. C'est le fameux épisode de 1306 où le roi parvient à se faire prêter une somme considérable par le trésorier du temple de Paris, Jean de la Tour, sans que celui-ci en réfère au grand maître Jacques de Molay. Et il y a déjà là une brèche qui...
Où se trouve le grand maître à cette époque?
À Chypre.
À Chypre. Hein,
à Chypre. Ils ont quitté Jérusalem, ils ont acheté comptant l'île de Chypre.
Et qu'est-ce qu'ils veulent l'amener en France?
Eh bien, c'est la convocation du pape pour parler de la fusion division des ordres et de la croisade. Faut toujours parler de la croisade, on ne la fait pas, mais on en parle. Voilà. Et la fusion des ordres, qui est à l'ordre du jour depuis 1274. Et Jacques de Molay vient, il est entendu par le pape, il se défend très très mal, il a de mauvais arguments pour refuser cette fusion des ordres. Et c'est à partir de ce moment-là que la mécanique judiciaire, juridique de Philippe le Bel se met en marche, à partir de la présence sur le sol de Jacques de Molay.
Ce qu'il faut peut-être aussi préciser, Jacques Ravenne, c'est que l'équilibre du pouvoir s'effectue à trois. Il y a évidemment cette puissance financière et militaire considérable du Temple, mais il y a à côté du roi de France, la papauté. Et il y a un énorme travail diplomatique, alors diplomatique et même parfois d'intimidation, disons-le, entre Philippe le Bel et le nouveau pape Clément V.
Ah oui, de toute façon, le pape Clément V est présenté, du moins par les historiens, comme étant une sorte de sujet d'expérimentation de la part de Philippe le Bel. Il a été placé sur le trône de Saint-Pierre.
Il faut expliquer ce qui est arrivé à son prédécesseur.
Son prédécesseur a eu, comment dire, quelques malheurs avec la royauté française, puisqu'il était dans un conflit à moitié théologique, à moitié politique avec Philippe le Bel, et Philippe le Bel n'avait rien trouvé de mieux que de lui envoyer son âme damnée, le très célèbre et fameux Guillaume de Nogaret. Et ce Guillaume de Nogaret avait réussi à retrouver le pape à Agnani, où il était venu avec une famille Colonna, qui resteront dans l'histoire d'Italie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tout simplement pour enlever le pape, le déposer, monter un autre concile à Lyon, ce qui s'était quand même jamais vu, et mettre un pape à sa dévotion.
Ça se reverra une autre fois dans l'histoire,
ça se reverra.
Mais,
à l'époque, pas du tout, oui. Et bien entendu, l'affaire se passe mal, les habitants d'Agnani, d'abord favorables aux Français, se révoltent un petit peu, et à ce moment-là, la tradition historique veut que Colonna, le proche de Nogaret, ait carrément et tout simplement frapper le pape qui aura eu beaucoup de mal psychologiquement à s'en remettre.
L'enjeu d'Agnani est bien au-delà de ça, c'est un schisme qui peut apparaître. C'est-à-dire l'enjeu d'Agnani,
c'est un risque en tout cas.
C'est de bloquer le concile que Boniface VIII veut monter pour excommunier le roi de France, c'est-à-dire quand on excommunie un roi, ça veut dire que tous ses sujets sont libérés de leurs devoirs vis-à-vis de lui. C'est-à-dire c'est la fin, comme le dit Jean Favier, c'est la mainmise du pontificat sur le royaume de France. Et Philippe le Bel va envoyer Guillaume de Nogaret pour le sommet de comparaître lui aussi devant un concile pour le destituer au motif que Boniface VIII n'a pas succédé à un pape qui était mort, mais un pape démissionnaire. Et donc c'était l'illégitimité de l'un contre l'illégitimité de l'autre. On est devant une possibilité de schisme.
On se rend compte dans cette histoire que Philippe le Bel, dont je me suis fait un peu l'avocat pendant la première partie de cette émission,
mais vous avez bien fait.
Philippe le Bel devait constamment défendre un pouvoir royal français en difficulté, face d'un côté à la puissance financière des Templiers, face de l'autre côté à la puissance spirituelle du pape.
Surtout la puissance du pape, c'est un renversement idéologique que fait Philippe le Bel. C'est l'affirmation d'une justice et d'un pouvoir d'État par rapport à une pratique pontificale, une prétention juridique du pape sur les États. Il y a des bulles fantastique, ils s'écrivent avec une virulence inouïe, et Philippe le Bel veut renverser ça, c'est-à-dire...
Les bulles, ce sont les arrêts du pape.
Les arrêts du pape, qui lui dit, mais tu ne peux pas prélever des impôts au clergé, tu es redevable de mon autorité en permanence, tout roi que tu sois.
Et donc l'idée de Philippe, c'est de s'affranchir de tout ça, et le nouveau pape Clément V, qui a été, comment dites-vous, une expérience...
Oui, c'est un sujet d'expérimentation, la monarchie française, mais un pape dont elle estime qu'il sera sans doute à sa dévotion.
Le roman, vous en faites un portrait, mais plus que savoureux. Le personnage est d'une finesse, d'un retors presque infini. Et en même temps, dans la réalité historique, ce pape Clément V était plutôt bienveillant, a priori, à l'égard de cet ordre monastique du Temple.
Ah oui, très clairement. Je pense qu'il avait quand même sur place à la fois un bras militaire, un bras financier, qui en principe ne dépendait que de lui. Donc s'en priver à un certain moment, c'était quand même réduire très largement la surface de portée de la papauté dans toute l'Europe, pas uniquement en France.
Alors juste après la publicité, là nous allons venir aux reproches concrets qui étaient faits aux Templiers et on va essayer de voir ce qu'il faut en penser.
Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
C'était au mois de mai que je fus adoubé dans la commanderie de Montigny-l'Allier. En ce 15 jours, ma joie comblée.
Un extrait sur Europe 1 de La Complainte et des Templiers.
Eh ben dites donc, mais ça fait peur. On a l'impression.
Oui, ça fait peur. C'est ce qu'on se disait hors antenne.
Les chants nazis, vous savez.
C'est ça. C'est plus nazi que grégorien finalement.
C'est pas très réjouissant, dit comme ça. Alors, nous sommes en compagnie de Dominique Labarrière, qui est l'auteur de La diabolique affaire des Templiers aux éditions Alphée, et de Jacques Ravenne, qui est co-auteur avec Éric Giacometti du 7e Templier, publié chez Fleuve Noir et qui sort donc demain. Et j'ai aussi sous les yeux un troisième ouvrage très connu et qui est réédité dans la collection Texto, la collection de Jean-Claude Silberstein, qui s'appelle La tragédie des Templiers. C'est signé du célèbre Georges Bordonov. Or, ce qui est incroyable, je relisais ça évidemment pour préparer cette émission, c'est que c'est une déclaration d'amour incroyable aux Templiers. Et si l'on écoute Georges Bordonov, tout ce dont ont été accusés les Templiers n'a été que extorqué sous la torture. Et en fait, c'est de la pure et simple, comment dit-on, de la
manipulation.
Manipulation, oui. Voilà.
Calomnie, merci. Ouais. Un trou.
Calomnie.
Et donc, vous n'êtes pas du tout de cet avis.
Pas du tout. Alors, la géographie des Templiers, on a le droit. Mais d'abord, la torture. Alors, la torture, il ne faut pas l'imputer à Philippe le Bel. C'est le pape. La torture est une affaire religieuse. Dans tous les procès où il y a apparence d'hérésie, la torture est recommandée par les papes. Au cours de cette histoire-là, la torture, c'est pas une pratique honteuse.
Quand même, les interrogatoires de Chinon se sont révélés d'une grande douceur par rapport à tout ce qui s'est fait par ailleurs sur les simples.
Oui, non. Alors sur la torture, c'est l'inquisiteur Guillaume de Paris qui décide
de la torture.
Qui est mandaté par le pape. Il y a une jurisprudence ancienne. Un pape précédent avait dit vous avez le droit de torturer lorsqu'il y a hérésie. Et comme cette règle n'avait pas été abolie, Guillaume de Nogaret, qui est un des plus grands juristes de son temps, au passage. S'est engouffré dans la brèche et Guillaume de Paris, inquisiteur, c'est lui qui mène la torture. Alors la torture, tous les Templiers n'ont pas été torturés, ceux d'Angleterre ne l'ont pas été, et ont, à quelques petites différences près, les aveux sont les mêmes. Donc la torture, c'est abject, c'est absolument odieux, ça entache, comme vous l'avez très bien dit, l'image de Philippe le Bel, mais ça n'est pas l'aspect déterminant de ces aveux. On ne peut pas dire que ces aveux, ce qui est contenu dans les reproches, apparaissent au moment du procès. Il y a un manuscrit de la règle qui a été exhumé par Barbara Fraley, qui est une historienne du Vatican, donc qui n'est pas soupçonnable d'antipathie pour les Templiers, qui est un manuscrit qui date d'avant 1291, donc bien avant le début de l'affaire, et dans lequel on trouve les pratiques qu'on reproche aux Templiers.
Alors précisément, ces pratiques, vous mettez en annexe de votre ouvrage cet acte d'accusation contre l'ordre de la chevalerie du Temple. On a un très grand nombre de chefs d'inculpation. Oui. Si l'on devait les regrouper en grandes catégories, quels sont les grands reproches qui sont formulés à l'encontre des Templiers?
Voilà, il y en a trois. Le reniement du Christ, le crachat sur la croix, la sodomie entre frères. Bon. Et puis, l'adoration de Baphomet, une idole.
Baphomet qui est une sorte de diable, en fait.
Oui, de diable. Alors, ce troisième point est assez difficile à authentifier. Les deux autres ne font aucun doute. Mais vous savez, comme dans tous les procès, l'accusation fait un détournement de la réalité. Or, les pratiques qui ont été imputées aux Templiers, elles ont existé. Le reniement du Christ a existé, c'est attesté dans le manuscrit de 1291, et les pratiques de sodomie, ce serait bien la seule communauté exclusivement masculine qui aurait échappé à cette époque-là, à bien d'autres époques, vous savez, c'est pas très
grave.
Oui,
mais alors la question est de savoir si il y avait des éléments, s'il y avait, si on pratiquait la sodomie, ou si c'était obligatoire, comme c'est dit là dans les chefs d'inculpation.
C'est pas obligatoire.
Y a plusieurs,
c'est l'exagération de l'accusation.
Qu'il disait à ceux qu'il recevait qu'ils pouvaient avoir des relations charnelles les uns avec les autres, qu'il leur était permis de le faire, qu'ils devaient s'y soumettre mutuellement et le subir, et que ce n'était pas un péché pour eux, etc.
C'est un formidable exemple que vous donnez, parce que dans l'acte d'accusation, il y a toujours une part de vrai. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a, si vous avez, les termes sont de l'époque et très jolis, si vous êtes échauffé, vous voyez plutôt un frère que d'aller vers les femmes, parce que les femmes, pardon Julia, mais c'est le diable, évidemment. L'obligation, c'est pas vrai. C'est ça, mais les accusations, on le voit aujourd'hui, quand dans les procès, l'accusation exagère.
Est-ce que ces pratiques, Jacques Ravenne, sont une déviance progressive qui s'est installée dans l'ordre, ou est-ce qu'elles étaient fondatrices et qu'on les retrouvait dès l'origine?
Alors, très difficile de répondre pour la sodomie, ça.
Non, alors
désolé.
Oui.
Mais je vous avouerai que...
Au moins pour le sacrilège, par exemple.
Pour le sacrilège, oui, bien sûr. Mais ce qui est évident, c'est que... pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit, ce qui est frappant quand on lit les interrogatoires et qu'on leur parle du reniement du Christ et du crachat sur la croix, c'est la surprise avec laquelle ils réagissent par rapport à ce genre d'accusation. Pour eux, ça leur paraît totalement bénin. C'est devenu progressivement un bizutage. Passé plusieurs années en Orient, effectivement, il y a eu quelques légendes qui ont circulé dans le milieu templier et on les a adaptées au fur et à mesure, comme dans toute société constituée, et on en a fait un simple bizutage. Et on voit bien dans les interrogatoires, ils sont quand même, il y en a plusieurs centaines, combien ils ne comprennent pas pourquoi l'Inquisition insiste autant sur ce type de pratique qui leur paraît des momeries, hein, ni plus ni moins.
Oui, mais enfin, qui évidemment.
Mais des momeries qui vont les conduire effectivement à certains problèmes.
Dans le texte de Bernard de Clairvaux, qui est le texte fondateur, si vous voulez, de ça, il est dit qu'il faut que les frères, avant d'entrer dans cet ordre militaire, donc avec une rigueur extrême et rigueur monacale, doivent être mis à l'épreuve lors de leur intronisation. Et comme la règle est secrète, qu'elle n'est pas transmise, on laisse à la discrétion de tous les précepteurs qui reçoivent ces épreuves-là. Et le reniement du Christ, c'est l'épreuve qu'on va infliger pour savoir si l'impétrant a le courage d'aller jusque-là pour marquer son obéissance absolue à l'ordre. Tu as juré obéissance quand on t'a mis la robe de templier. Montre ton obéissance. Voilà, on te dit de cracher sur le quai. Mais comme le dit très justement, au fil du temps, ça s'est dévié. Et quand la perte de sens arrive avec la perte des lieux saints, ça devient une mascarade.
Bien sûr.
Cet ordre qui n'a plus de légitimité dans son action, qui n'est plus qu'une banque, qui n'est plus que rien, va obéir à une dérive qu'on pourrait qualifier de sectaire.
Alors, se posent aussi de grandes questions sur les Templiers. L'affaire du trésor, bien entendu, qu'est devenu le trésor des Templiers? Est-ce que les Templiers sont, d'une façon ou d'une autre, à l'origine de la franc-maçonnerie? On va essayer de répondre à toutes ces questions.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1, plongez au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
Les secrets des Templiers nous intéressent sur Europe 1 et font visiblement réagir nos auditeurs.
Oui,
Franck.
Voilà. Alors, je suis en train de me dépêtrer de toutes les réactions. C'est très intéressant du reste. Je me rends compte que nos auditeurs se partagent vraiment en deux catégories. D'une part, ceux qui défendent les Templiers, qui les admirent, etc., sont été de si redoutables et redoutés combattants, etc., nous dit par exemple Patrick. Et puis, ceux qui, à l'instar de Frédéric, veulent absolument faire un rapprochement entre les Templiers à l'époque et puis nos financiers d'aujourd'hui, ceux qui se cachent, nous dit Frédéric, à Zurich, Genève, aux îles Caïmans, derrière des sociétés écrans. Je lui laisse la responsabilité de ce genre de rapprochement. En revanche, un rapprochement qui est très fréquent et dont on parle souvent, et c'est vers vous que je me tourne très naturellement, Jacques Ravenne, pour en parler, c'est la question de la franc-maçonnerie. Est-ce qu'il y a une filiation quelconque entre l'ordre du Temple et la maçonnerie?
Filiation spirituelle sans doute, filiation réelle, ça reste très difficile à prouver, je ne le pense pas. Alors filiation spirituelle, on revient un petit peu sur la discussion de tout à l'heure. Quand la franc-maçonnerie se développe en Europe, dans les années 1740-1750, son mode de développement est très très rapide. Et au bout d'un certain temps, un certain nombre de frères commencent à trouver que cette franc-maçonnerie, qui était un club plutôt fermé, disons élitiste, s'embourgeoise un petit peu, pour ne pas dire se prolétarise, et donc on crée des hauts grades, qui sont en quelque sorte interdits aux profanes de la base.
Donc presque une chevalerie, en fait.
Et où aller chercher le modèle? Eh bien, c'est très simple. On va aller chercher une chevalerie dont on parle un petit peu depuis quelques années, et on va soucher sur la chevalerie du Temple. Et on va voir apparaître un discours de Ramsay, qui était le secrétaire de Fénelon, qui va faire ce souchage très naturellement jusqu'à la création d'un ordre du Temple maçonnique par un baron Hund, qui lui avait vu encore plus fort. C'est-à-dire, il voulait remonter un ordre maçonnique templier et racheter toutes les maisons du Temple, parce que derrière se cachait déjà l'idée qu'un trésor peut être dans la cave. Sait-on jamais.
Et alors, ce trésor, pour le trouver, il faut disposer des chartes nécessaires, évidemment. Il faut savoir où aller puiser les documents. Il y a une véritable chasse au trésor des Templiers qui se déroule depuis 5 siècles, Dominique Labarrière.
Historiquement, sur les francs-maçons, sur la filiation, historiquement, il n'y a pas de lien. Dans les constitutions d'Anderson, qui sont les actes fondateurs de la franc-maçonnerie, qui sont de 1733 en Écosse, il n'y a pas une allusion à l'ordre du Temple.
C'est un retour, c'est ce que nous
c'est
dit
après,
clairement
Jacques Ravenne. Ce que vous dites très justement, c'est une inspiration.
Mais alors ce trésor...
Alors le trésor, j'ai 30 secondes pour le trésor. Vous savez, quand on a perdu les lieux saints, c'est un cataclysme, absolument un traumatisme épouvantable pour l'Occident. Et comme quand on a tout perdu, on ne peut pas avoir tout perdu. Il y a une espèce de fantasmagorie qui se crée, une espèce de non-désespoir qui s'inscrit dans l'inconscient collectif. Et Et il ne faut pas que les Templiers aient été à la
totalement anéantis. Oui.
Donc il y a trois trésors qui sont, à mon avis, de l'ordre du fantasme, plus ou moins. C'est un trésor des savoirs obscurs, de l'ésotérisme. Ce serait un premier trésor, le trésor de l'argent, la richesse. Et puis ce trésor de la sainteté. C'est pour ça qu'il y a Bordenov, par exemple, qui croit formidablement, et c'est magnifique de croire à la sainteté, les victimes de leur foi, les victimes collectives et sacrificielles d'une foi absolument extraordinaire. Donc ce sont trois trésors qui sont à des strates différentes, mais qui pour moi n'ont pas véritablement de valeur historique.
J'ajouterais un trésor romanesque, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que cette affaire des Templiers et tout ce qui tourne autour a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé l'imagination des romanciers, à commencer par la vôtre, Jacques Ravel, évidemment.
Ce trésor qui est devenu romanesque avec le temps, on le cherche depuis 5 siècles. Hein. Les premières quêtes se font au 15e siècle dans la famille de Beaujeu, au château d'Argigny. On a continué jusqu'en 1950, on l'a placé à Gisors, on l'a placé dans le Verdon, on l'a trouvé partout. Malraux a fait des fouilles. Il y a même une légende qui veut qu'il ait déjà été trouvé, que de Gaulle s'en soit servi pour rembourser les Américains. Vous voyez où est-ce qu'on en est.
Alors nous avons en ligne Jean Daillon qui, dans sa très belle série Les Enquêtes de Louis Fronsac, donc là on est au XVIIe siècle, consacre le nouveau tome, le nouveau volume, au secret de l'enclos du temple. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est en quelque sorte de l'histoire dans l'histoire, c'est une mise en abîme. On est dans une série romanesque historique qui se passe au XVIIe et dont la thématique est elle est une thématique du 13e. Bonjour Jean Daillon.
Bonjour.
C'est très intéressant cette démarche qui est la vôtre. Est-ce qu'on peut considérer qu'au 17e, la fascination pour les Templiers existait déjà?
Ah ben bien sûr. Mais bien sûr. Moi personnellement, je me suis basé sur une série de petites anecdotes qui sont rapportées par le comte de Bussy-Rabutin.
Oui.
Bussy-Rabutin, qui était un colonel de Condé, un maître de camp, logeait dans l'enclos du temple, dont son oncle était.
Alors l'enclos du temple, qui est l'actuel quartier du temple à Paris, hein, tout
voilà.
Simplement.
Voilà, alors l'enclos du temple, c'est évidemment un petit peu mystérieux pour les Parisiens, puisqu'il n'en reste rien.
Mais oui. Hein.
Mais il faut voir que jusqu'à la Révolution française, et en tout cas au XVIIe siècle, c'était quelque chose d'extrêmement important.
Oui, Louis XVI et sa famille sont bien placés pour le savoir, oui. Qui ont été détenus à la toute fin.
Voilà. L'enclos du Temple, c'est une petite ville dans Paris, une ville close.
Très bien fortifiée, oui.
Très fortifiée, et quasiment indépendante du pouvoir, c'est-à-dire qu'elle dispose de ses propres... C'est un fief, donc elle a son propre droit. On y pratique le droit d'asile, on peut exercer des métiers sans taxes, et quantité de gens cherchent à s'établir dans l'enclos. Et donc le comte de Bussy-Rabutin loge dans l'enclos quand il vient à Paris, et... Je raconte dans mon roman que son oncle, donc, qui est le grand prieur, lui offre une maison pour le récompenser d'un service qu'a effectivement rendu Roger de Rabutin. Et cette maison, c'est la maison de Jacques de Molay. Enfin, la maison occupée de Jacques de Molay.
En fait, est-ce que vous avez utilisé, vous, cet élément des Templiers comme piment à votre intrigue, ou est-ce que c'est une intrigue qui vous a été dictée par les Templiers eux-mêmes? Ça, j'aimerais savoir comment vous avez procédé.
Alors non, c'est un élément de l'intrigue parce qu'elle permet de résoudre un certain nombre de petits problèmes historiques. Mmh. D'abord, elle permet de... Mais c'est un roman, encore une fois. Elle permet de comprendre une affaire qui est arrivée à Bussy-Rabutin, qui est totalement incompréhensible. C'est-à-dire que à cette époque, il s'est mis dans une sale affaire. Il a enlevé une jeune veuve. Et il a failli partir aux galères à la suite de ça. Donc ceci est raconté dans ses mémoires, mais est raconté par d'autres contemporains. Et on n'a jamais eu d'explication sur les raisons pour lesquelles il avait enlevé cette femme.
Eh bien,
sinon...
les explications, on peut les trouver donc dans Le secret de l'enclos du temple de Jean Daillon. C'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup Jean Daillon.
Merci.
Dominique Labarrière, vous êtes donc l'auteur de cette belle somme, la diabolique affaire des Templiers. C'est édité chez Alphée. Vous êtes aussi l'auteur dans le numéro de mai-juin du Monde des Religions de tout un dossier
sur la chute.
Templiers. Et puis à partir de demain en librairie, le 7e Templier, édité au Fleuve Noir, un secret vieux de 7 siècles qui fait encore couler le sang. C'est signé, bien entendu, Giacometti et Ravenne, et ça va faire rêver.